Bienvenue à la troisième édition du congrès virtuel francophone DST. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. J'ai le plaisir de vous présenter la conférence du jour qui s'intitule « Trauma simple, trauma complexe, deux approches différentes pour l'EFT ». Il arrive parfois que des personnes se plaignent de manque d'efficacité de l'EFT, que ce soit parce que ça ne marche pas ou bien que ça ne tient pas dans le temps, ou encore certaines personnes diraient que le remède est pire que le mal. Pourquoi ces personnes n'obtiennent-elles pas le résultat attendu, à savoir une libération des émotions négatives et une mise à distance d'un problème vécu dans le passé? Eh bien, notre conférencier répondra à cette question et détaillera les deux grandes approches d'utilisation de l'EFT selon la gravité des traumas vécus. En se basant sur son expérience du terrain avec des personnes en grande souffrance, que ce soit lors de missions humanitaires, comme en 2011 en Haïti par exemple, ou dans les services de soins palliatifs, ou encore au cours de l'accompagnement de personnes atteintes de maladies lourdes telles que le cancer. Il va nous détailler comment travailler lorsque l'EFT ne fonctionne pas aussi simplement et naturellement qu'on pourrait espérer. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir maintenant le président de l'Institut français de psychologie énergétique et clinique, Jean-Michel Guré. Bienvenue Jean-Michel.
Bonjour Maria, merci de ton accueil.
Jean-Michel, tu es là aujourd'hui pour nous parler de trauma simple et trauma complexe, ces différentes approches. Et tu es sur le point de repartir en Haïti, où tu avais déjà passé du temps il y a 2 ans. Et après ce premier séjour en mars 2011, dans quelle disposition d'esprit vas-tu partir pour ce deuxième séjour ?
Eh bien, très bonne. En fait, en mars 2011, j'avais répondu à la demande de l'association Énergie Psy sans frontières, qui est présidée par Claudie Caufour, qui est également praticienne en EFT. À l'époque, nous sommes partis pour former environ 300 personnes à l'EFT, et l'idée, c'était aussi de travailler avec eux sur leur trauma, bien évidemment, consécutivement au tremblement de terre qui s'était déroulé en janvier 2010.
Oui, c'était ça la raison principale de ce déplacement. Ouais.
En fait, on voulait nous assurer à l'époque que l'EFT correspondait vraiment à leurs attentes et surtout à la culture. Et comme le résultat a été favorable, on a donc souhaité poursuivre notre action en l'adaptant aux besoins sur place. Donc en fait, on repart en juin 2013 et nous serons accueillis sur place par Anne de Saint-Blanca, qui est en fait une Française qui a créé sur place un centre de psychothérapie et qui va réunir pour l'occasion une cinquantaine de psychologues. Ce sont des psychologues qui sont haïtiens, qui travaillent bien évidemment sur place. Donc en fait, nous souhaitons former des professionnels là-bas, les suivre, les superviser et faire ça dans le temps afin que l'EFT s'installe véritablement, durablement sur l'île. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est vraiment ça qui est important, c'est d'avoir des personnes sur place qui vont faire le suivi et qui vont aider les personnes. Donc cette année, ce projet qui est bénévole va être cofinancé par Énergie Psy sans frontières, par l'IFPEC, l'Institut français de psychologie énergétique et clinique que je représente, et aussi Thérapeutia qui est dirigé par Yves Vautier qui sera présent sur place. Donc on va partir à 5 thérapeutes pour muscler en fait notre action là-bas, et puis former des personnes à la fois à l'EFT et aussi au RIMAP, qui est enseigné par Yves, et qui est une technique un peu connexe à l'EFT, qui utilise également des points d'acupuncture.
Effectivement, j'imagine qu'il y a beaucoup de besoins là-bas, tu vas nous parler un peu de leur état d'esprit tout à l'heure. Que t'a apporté cette première expérience en 2011 ?
Alors d'abord c'était un choc en fait quand on est arrivé sur place parce que bien qu'on s'attende à trouver un pays en grande difficulté, entre ce qu'on imagine et ce qu'on découvre sur place, c'est vrai que c'est un peu, il y a forcément un décalage.
Oui.
Le fait de travailler avec des personnes qui ont vraiment des traumas complexes, on s'est aperçu également qu'il n'y avait pas simplement des traumas complexes, mais elles avaient aussi des empreintes transgénérationnelles, donc l'héritage de leurs ancêtres, et on s'est aperçu que travailler classiquement avec l'EFT, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que les personnes sont ce qu'on appelle dissociées. Donc la dissociation, c'est un processus de défense. C'est un peu comme si la personne était à côté de son corps et que du coup, ben, elle ressent pas les émotions. Par exemple, on se retrouve avec des personnes qui sont capables de nous raconter des atrocités qu'elles ont vécues sans sourciller, comme si elles nous parlaient d'autre chose, quoi, ou qu'elles nous parlaient pas de eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment assez assez surprenant. Et si on commence à faire de but en blanc une séance de EFT, il se passe rien, parce que la personne, elle ressent rien avant, elle ressent rien pendant, elle ressent rien après. Donc ça sert, en fait, ça sert pas à grand chose, quoi. Il faut d'abord, en fait, les réassocier. Et donc on verra comment on fait.
D'accord. Est-ce que tu dirais que cette dissociation, justement, c'est quelque chose de typique ou d'habituel avec les grands traumas?
Oui, bien sûr. De toute façon, c'est vraiment un processus de défense.
Oui, c'est un mécanisme de sécurité, en fait.
Tous les enfants font ça, on est battu, on s'imagine être ailleurs, et voilà, on se dissocie pour avoir moins mal.
Pour survivre.
Je dirais presque, oui, tout à fait, heureusement, d'ailleurs, c'est une bonne protection.
Oui, tout à fait.
Ensuite, ce qu'on a vu là-bas, c'est que ils n'ont pas seulement vécu le drame du tremblement de terre. En fait, comme disait Anne de Saint-Blanca, c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan de malheur.
Oui.
Ils portent vraiment, eux, l'héritage des souffrances de leurs parents, de leurs grands-parents, et probablement, certainement, encore d'avant.
Oui.
Quoi. Ensuite, certains d'entre eux, et un grand nombre d'ailleurs, vivent l'horreur au quotidien depuis leur naissance. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vécu l'abandon, la maltraitance, des viols à répétition. Dans les camps, les conditions sont vraiment atroces. Certains même de la torture, des deuils en veux-tu, en voilà. Ils ont des problèmes de malnutrition, les catastrophes naturelles qui se multiplient. Après le tremblement de terre, il y a encore eu le cyclone. Enfin, bref, c'est vraiment des gens qui sont polytraumatisés depuis tout petit et on ne peut pas utiliser l'EFT. Donc, outre le fait qu'il soit dissocié pour certains, on ne peut pas rentrer de but en blanc sur des traumas extrêmement douloureux parce qu'on risquerait de leur faire du mal.
Oui, et puis un problème cachant un autre, ça ne s'arrête jamais.
Voilà, donc c'est vraiment l'approche entre les traumas simples et les traumas complexes. Un trauma simple, c'est éventuellement quelque chose de très très fort, mais qui s'est produit une fois ou en tout cas de manière isolée.
Mm-hmm.
Et les traumas complexes, c'est la conséquence justement de tout un enchaînement de traumas qui se répètent, quoi.
Mm-hmm. Alors, quelle est la différence dans l'approche entre un trauma simple et un trauma complexe, comme tu l'as décrit?
Pour les traumas simples, donc, on va partir des symptômes du présent. Alors, des fois, les gens qui viennent nous voir en cabinet, ils ont l'idée déjà de leur trauma. Ils disent, voilà, j'ai vécu telle ou telle chose et je voudrais travailler là-dessus. C'est assez rare. En fait, ils vont exprimer un mal-être au quotidien. Et donc, on va partir des symptômes du présent. Qu'est-ce que vous ressentez? On va les accompagner pour définir précisément une cible, c'est-à-dire, dites-moi un moment vous avez réexpérimenté ce dont vous me parliez. Et puis, on va demander à la personne de se souvenir de la première fois où elle a ressenti cette sensation. On va l'aider à remonter dans le passé, à s'immerger, en fait, dans le passé. Et lorsqu'on retrouve un événement passé de même nature, on le traite. Donc on fait des rondes de EFT complètes jusqu'à ce que la personne qui, alors qu'elle est là, ici et maintenant, repense à ce qui s'est passé il y a, mettons, une dizaine ou une vingtaine d'années, ressent encore des émotions négatives, on travaille là-dessus et on fait diminuer au présent l'intensité émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait on retraite le souvenir de telle manière que la personne qui est ici et maintenant, eh bien, elle puisse comprendre que effectivement elle l'a vécu, ça s'est passé, mais que maintenant elle est plus touchée par ça. Une fois qu'on a fait ça, on peut demander à la personne de repenser aux souvenirs récents dont elle nous parlait. Et là, ce qu'on observe la plupart du temps, c'est que déjà l'intensité émotionnelle de cet événement, mettons que la personne nous dise oui, ça s'est passé il y a quelque temps et quand j'y repense, je suis à 8, sans avoir travaillé sur cet événement, mais en ayant travaillé sur l'événement du passé, on la ramène au présent, et là déjà, on s'aperçoit que de 8, très souvent, elle est passée à 2, il arrive même des fois que ça soit déjà à 0, c'est-à-dire qu'elle ne ressent plus rien, quoi. Donc on a du coup retraité l'événement actuel, sans même y avoir touché, parce qu'on a retraité tous les déclencheurs du passé.
Mm-hmm.
Et troisième étape, eh ben, on va traiter le futur, c'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, ok, maintenant, imaginez, la même situation se répète prochainement, qu'est-ce que vous ressentez? Pour illustrer ça, je pourrais vous donner l'exemple d'un cadre dirigeant avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler. Donc, c'est le président d'un groupe international, c'est un monsieur d'une cinquantaine d'années, il est né dans un pays d'Amérique du Sud, et son problème qui vraiment lui gâche sa vie professionnelle et même sa vie personnelle, c'est qu'il est incapable de prendre la parole en public, même en petit comité avec des gens qu'il connaît bien. Donc, dans le cadre de son entreprise, quand il doit diriger des conférences, même audio, comme on est en train de faire là, eh bien, il se met à transpirer, sa voix chevrotte, enfin, il est vraiment extrêmement mal. Il m'explique qu'il a fait plein de choses, de techniques, qu'il a été muté dans plein de pays, donc il a essayé beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, donc, après lui avoir demandé tout ce qu'il avait essayé, je m'aperçois qu'il avait jamais vraiment travaillé sur son enfance. Donc je lui dis, ok, décrivez-moi la dernière fois que ça vous est arrivé ça. Alors donc il me dit, bah c'est facile, hein, il y a deux jours, je suis en conférence, c'est une vidéoconférence, je vois très bien la scène, je me revois bien dedans, je me ressens. Donc en fait il a une image mentale très claire, comme une sorte de petit film en fait de ce qui s'est passé. Ok, donc quand vous pensez à ça, qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Et sur son fauteuil devant moi, il me dit, ben, j'ai la sensation d'avoir la gorge qui se noue. D'accord, et c'est quoi votre émotion? Ben, je ressens un malaise, c'est un peu de la peur, je sens que je transpire, d'accord. Et qu'est-ce que vous dites de négatif sur vous quand vous pensez à cette scène? Il réfléchit un moment et puis il me dit, ben, il faut que je sorte d'ici, je me sens en danger. Voilà, en fait... Ça, c'est ce qu'on appelle le pack traumatique, c'est-à-dire que je lui demande pas simplement un souvenir et l'intensité émotionnelle, je lui demande son image mentale, d'être capable de me la décrire, je lui demande ses sensations et la localisation de ses sensations dans son corps. Ensuite, je lui demande son émotion, donc là, peur, et puis...
Le discours intérieur.
Voilà, le discours intérieur, c'est sur la cognition négative, la croyance négative. Donc, en fait, je suis en danger. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'il se retrouve dans une situation donnée, c'est ce qui se met en route de manière inconsciente. Donc, forcément, il se sent pas bien du tout à chaque fois qu'il doit faire un discours ou qu'il doit animer une réunion. Et là, je lui dis, ben, ok, fermez les yeux et puis oubliez la situation de la dernière fois. Restez juste centré sur les sensations corporelles. Donc, on marque une petite pause pendant laquelle il s'immerge là-dedans, et je lui dis, quand est-ce que vous avez ressenti ça la première fois? Et donc là, il fait un lien avec son passé, avec son père. Il commence à me parler de son père. Alors bon, lui était l'aîné d'une famille très nombreuse, et son père était quelqu'un d'assez particulier. Sans rentrer dans le détail, il retrouve un événement de son passé où ça a été extrêmement difficile. En fait, c'était une situation entre son père, sa mère, lui étant témoin de ça. On travaille là-dessus, il libère beaucoup d'émotions. Et puis, il est surpris de voir à quelle vitesse il arrive à intégrer ça. Finalement, il revient à zéro. Mmh. Et là, on repart sur le présent, repenser à la situation. Qu'est-ce que vous ressentez? Il ressent plus rien. Je l'accompagne à imaginer la prochaine conférence qu'il doit animer. Là-dessus, il me dit que oui, il y a un petit malaise quand même. Ça se noue un peu dans sa gorge. Très bien, on retravaille là-dessus. Il n'y a plus rien. Ok, je l'envoie à la deuxième séance. Et là, son feedback a été vraiment très, très intéressant et puis réjouissant parce que il m'a dit, mais c'est incroyable, tous mes collègues m'ont demandé ce qui se passait. J'ai même pu faire de l'humour.
Ah ouais.
Il me dit, pour moi, c'est juste inconcevable. Ouais. Donc voilà, ça montre bien que quand on arrive à remonter comme ça dans le passé, à traiter, voilà, on a vraiment des résultats assez rapides au niveau du présent. Donc même s'il a eu une enfance difficile, et que il y avait eu quand même plusieurs traumas, ce monsieur-là, il a néanmoins des ressources, parce qu'il a un travail, il dirige des centaines de personnes, il a des responsabilités, donc c'est quelqu'un qui est bien construit, quoi.
Oui,
donc,
et en dehors de ce moment où il s'est senti en danger, où il y a eu ce problème avec ses parents, il a probablement vécu des moments aussi très positifs, très encourageants, donc il a des ressources sous la main, oui.
Avec les traumas complexes, avec des personnes qui n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir se construire et de dépasser, de la résilience, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. En fait, Avec les traumas complexes, si on procède de cette manière-là, c'est-à-dire si on essaye de remonter tout de suite dans le passé, on risque au pire de retraumatiser la personne et elle va sortir de la séance en étant vraiment extrêmement mal. Et au mieux, si on peut dire au mieux, ça risque de pas tenir. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un événement, la personne peut éventuellement ressentir un soulagement, mais quand on la revoit une semaine, 15 jours après, eh bien, elle nous dit et qu'elle nous reparle de cet événement, eh bien, en fait, elle est exactement comme elle était il y a 15 jours. Donc ça, c'est vraiment un signe que la personne manque de ressources. Voilà, sinon, bah, de toute façon, ce qu'on va faire en EFT, ça tiendra pas. Donc en fait, on va devoir travailler sur les capacités de la personne, en apporter de nouvelles, de différentes manières, donc on parlera, et puis ensuite seulement, on viendra travailler sur les déclencheurs du présent. Donc là, on va dans le futur, on installe des ressources, donc on accompagne la personne à imaginer des choses positives dans son futur. Une fois qu'elle est bien là-dedans, ça semble être un peu solide, eh bien, on commence à travailler sur le présent. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Et puis là, on voit si le travail qu'on fait au présent tient. Si ça tient pas, on rajoute encore des ressources. Donc ça veut dire que on peut des fois passer 2, 3, 4, 5, 6, voire plus de séances à installer des ressources. Et on va demander aussi à la personne de travailler entre les séances sur ses ressources. Après, on vient au présent. Et en travaillant au présent, on voit si ça tient ou pas. Si ça tient, eh bien on continue aussi le travail sur des ressources, on nettoie, et après on va remonter dans le passé, et on va y aller eh bien d'une manière, enfin tout en douceur, on va pas forcément chercher là le pire du pire tout de suite. On va commencer à travailler sur éventuellement des événements périphériques, voir ce que ça fait, si la personne commence à aller mieux, et si tout ça se stabilise.
Oui, d'autant voilà, plus que pour les traumatisés, comme tu mentionnais tout à l'heure, j'imagine qu'au début, le fait de ne serait-ce que penser au positif, c'est un peu de la science-fiction.
Ben, oui. Alors, justement, le protocole d'installation des ressources tient compte de ça. Parce que si on demande à quelqu'un qui a été polytraumatisé, rappelez-vous d'un moment où vous avez été bien, pour certaines personnes, c'est impossible. Il n'en a pas. Voilà. Donc, en fait, on va faire appel à l'imagination. Mm-hmm. Et on va conduire la personne à imaginer ce que ça serait pour elle de se sentir dans un état positif, par exemple en sécurité ou voilà quelque chose.
Justement,
comme ça.
Ces personnes que tu vas rencontrer en Haïti là dans peu de temps, comment ils sont en ce moment?
Pour un grand nombre de personnes en fait, hein, ils cumulent tout ça. C'est-à-dire ils vont cumuler des troubles de l'attachement, ils vont cumuler le fait de pas avoir été protégé tout petit, et de ne pas avoir pu créer un lien, les traumas complexes, puisqu'ils ont vécu des choses à répétition et ils continuent, et puis ils sont aussi les héritiers de tout ce que leur ont transmis leurs parents, leurs grands-parents et encore avant. Donc en fait, l'ampleur de cette tâche est énorme, et c'est vraiment la raison pour laquelle la seule action efficace qu'on puisse faire là-bas, c'est vraiment former des spécialistes sur place pour qu'ils prennent le relais, et qu'ils puissent suivre de près leurs patients. Parce que sinon, c'est vraiment... c'est un peu, si je peux me permettre cette métaphore, on se casse la jambe, on nous plâtre la jambe, on enlève le plâtre, c'est bon, c'est solidifié, mais si on reprend un coup très fort sur la jambe, elle recasse. Et c'est un peu ça qui se passe, quoi. Si on envoie des thérapeutes sur place pour faire des séances aux Haïtiens, et qu'on repart et qu'on vient pas avant un ou deux ans, bah ça sert à rien, parce que les gens, ils auront eu entre-temps l'occasion de reprendre des choses. Et puis le travail est long, quoi.
Oui, bien sûr.
Pour l'installation des ressources, c'est du suivi qu'il faut faire, donc en l'espace de quelques jours. Même si nous, on a pu constater, quand on y est allé, qu'il y avait vraiment une amélioration sur le stress post-traumatique, on a publié une étude qu'on pourra faire passer d'ailleurs aux personnes qui sont intéressées. Elle est en anglais, hein, je le précise, on l'a pas encore traduite en français, elle a été publiée dans un journal américain, qui montre qu'il y a vraiment une amélioration en l'espace de 3 séances de EFT, qui ont été dispensées de manière collective, une amélioration de 60% des symptômes de stress post-traumatique. Donc c'est vrai que c'est énorme, c'est très efficace, mais néanmoins c'est pas suffisant s'il n'y a pas de suivi derrière.
Non, bien sûr, et ça fait penser à, en général, à l'aide humanitaire. Effectivement, c'est dans une zone de catastrophe comme ça, c'est pas bon. Dans l'urgence, on peut leur apporter de l'eau et des vivres. Mais si on ne les aide pas à installer les ressources sur place, ça ne servira à rien sur le long terme.
C'est le même. C'est le fameux proverbe chinois qui dit que si on veut aider les gens arrêter de souffrir de malnutrition, il vaut mieux leur apprendre à pêcher que de leur donner un poisson. Voilà. Donc c'est vraiment dans cette philosophie qu'on se déplace.
Alors tu parlais de troubles de l'attachement, tu peux expliquer un peu en quoi consistent les troubles de l'attachement ?
En fait, en deux mots, la théorie de l'attachement, c'est un champ de la psychologie qui traite des relations entre les êtres humains. Le principe, grosso modo, de base, c'est qu'un enfant, un jeune enfant, tout petit depuis sa naissance, il a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation d'attachement avec au moins une personne. Donc, dans l'idéal, c'est sa maman et son papa, mais on n'a pas forcément tous la chance de ça. Donc, ça peut être une autre personne référente qui prend soin de lui d'une manière cohérente et aussi continue. Donc, c'est une théorie qui a été formalisée par le psychiatre, le psychanalyste John Bowlby, qui s'est intéressé à différents travaux, dont ceux de Winnicott, aussi Corinne Lorenz, qui a travaillé avec des animaux, des oiseaux, sur le phénomène d'empreinte. Hein, Corinne Lorenz, c'est assez drôle, il y a des vidéos aussi sur Internet qui sont toutes mignonnes. Il assistait à l'éclosion des œufs. Et en fait, les oiseaux, les oisillons, comme c'était la première personne qu'il voyait, ça crée un phénomène d'empreinte et il le suivait toute sa vie. Il prenait un bateau, on voyait des canards le suivre, voilà. En fait, c'est le même principe pour les humains que l'attachement. Il y a eu des études qui ont été faites sur des populations en Afrique où la coutume veut que à la naissance du bébé, la maman le garde en permanence contre lui. Le bébé peut se nourrir, téter quand il veut, et il y a une séparation avec le papa, c'est-à-dire que le papa est invité à sortir du lit conjugal et la maman dort avec son petit. En fait, ils sont vraiment complètement en lien. C'est-à-dire ce qu'on peut entendre des fois par chez nous, dire il faut pas faire ça. Et ils se sont aperçus, l'étude montre que les enfants qui sont élevés comme ça, donc dans un lien total d'amour, on va dire, en permanence avec leur maman, en fait, ils arrivent à marcher vers l'âge de 7 mois. Ce sont des enfants qui ne pleurent jamais et qui sont capables de s'autonomiser d'une manière assez incroyable. Nous, on marche entre 15 et 17 mois, et en ce qui concerne le fait de pleurer, on a quand même plutôt des bébés qui pleurent ici.
Oui.
Et donc, voilà, ça montre que vraiment cette relation extrêmement étroite entre la mère et l'enfant est extrêmement nourrissante, et ça permettra d'avoir des personnes qui sont vraiment bien construites. Voilà, donc les personnes qui n'ont pas ça, eh bien, ils vivent, ils sont pas aussi bien construits, évidemment. Les personnes qui souffrent de troubles d'attachement, voilà, c'est un problème assez complexe, puisque c'est dès leur naissance, dès la fabrication de leur identité, qu'il y a eu problème. Mm-hmm. Donc voilà, c'est ça les troubles d'attachement.
Et l'empreinte transgénérationnelle ?
L'empreinte transgénérationnelle, c'est ce dont on hérite de la part de nos parents, de nos grands-parents. Je vous invite à aller voir une petite vidéo sur le site de l'IFPEC. Hein, l'adresse internet, c'est www.ifpec.org. Il y a un onglet ressources dans lequel il y a une vidéo de chercheurs, ce sont des médecins, à l'hôpital de Genève. Ils ont fait une découverte assez étonnante. Alors, ils ont isolé un gène, qui est le gène du trauma, de l'expression des traumas, et ils ont fait des analyses génétiques sur trois personnes, donc la grand-mère, la mère et la fille. Mm-hmm. Ces trois personnes, en fait, ont une histoire particulière, puisque au départ, la fille a été violée par son père. La mère, donc, a été au courant de ce viol, donc la mère a été traumatisée, la fille, évidemment, a été traumatisée, et de ce viol est née une petite fille. Et donc, ils ont fait des analyses génétiques du même gène chez les trois personnes. On s'aperçoit que le gène est fortement exprimé chez la fille, puisqu'elle a été violée. Il est également très fortement exprimé, un tout petit peu moins, sur sa maman, sur la maman de la fille, donc la grand-mère en fait. Et la grosse surprise, c'était de voir que chez la petite fille, il est encore plus exprimé que chez sa maman et sa grand-mère. Donc, la petite fille, au moment du viol, elle n'a pas pu vivre le trauma. Donc, elle a hérité de tout ça. Et donc, c'est l'empreinte transgénérationnelle, c'est clairement objectivé par des scientifiques. Donc, en fait, une population comme Haïti, où ils vont cumuler les troubles de l'attachement, mais ils vont aussi avoir dans leur gène l'expression du trauma de ce qu'ont vécu leurs parents, leurs grands-parents, connaître un peu l'histoire d'Haïti pour savoir qu'on imagine bien tout ce qu'ils doivent se traîner, les pauvres.
Bien sûr, mais ce n'est pas juste l'héritage des traditions et de ce qu'ils ont entendu dans leur famille, tout ça, c'est vraiment jusque dans les gènes.
Bien sûr que c'est dans la culture. En plus, en Haïti, il y a aussi une culture assez particulière où il y a le vaudou, donc qui entretient de la peur, etc.
Oui.
Mais c'est effectivement, en plus, génétique. Quand on cumule ça avec les troubles de l'attachement, l'empreinte générationnelle, plus les multiples traumatismes,
oui.
On imagine ce que ça donne.
Oui,
quoi.
Ça fait beaucoup. Justement, ici, chez nous, en Europe, est-ce que tu peux donner des exemples de personnes qui présentent le même profil ? Parce que nous sommes quand même à l'abri d'horreurs comme ça, heureusement, mais parfois, il y a d'autres traumas qui peuvent venir se calquer.
Bien sûr qu'on en rencontre. Moi, je pense à toutes les personnes que tu dois découvrir toi aussi en cabinet, qui ont eu des abus répétés durant leur enfance, qui ont vécu des dénigrements répétés, un manque d'amour. Ça peut être aussi des enfants qui n'étaient pas désirés, auxquels on l'a expliqué, on l'a clairement dit depuis des décennies, où ils se sentent pas à leur place, ils ont jamais eu leur place. Leurs parents ont été abusifs, maltraitants, mais aussi leurs professeurs, les enfants qui ont été abandonnés. Ce qui est surprenant aussi, c'est qu'on rencontre des fois des personnes dans ce cas-là qui ont a priori pas vécu franchement ce qu'on pourrait dire des traumas énormes. Mais je pense à une personne avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler. Ses parents qui travaillaient beaucoup pour gagner de l'argent pour leurs enfants, en fait, avaient déplacé cette personne chez ses grands-parents en pensant qu'il allait être très bien. Et comme il y avait 5 enfants dans la famille et que c'était le seul à être placé, parce que le plus petit, chez ses grands-parents, il s'est vraiment senti rejeté, abandonné, etc. Donc on peut retrouver aussi des attitudes similaires chez des gens qui n'ont pas forcément eu des choses aussi incroyables qu'à Haïti.
Oui. Bien sûr, c'est ce qu'on dit souvent en EFT, on parle des traumas avec un grand T, des petits T.
Oui, en fait, il n'y a pas d'échelle de classement des traumas,
non.
Donc grand T, petit T. Un regard peut être un véritable traumatisme, là où un coup sera moindre. Toutes les personnes sur qui l'EFT apporte un soulagement temporaire et qui voient bien que sur le long terme ou sur le moyen long terme, il n'y a rien qui s'installe, ça ne dure pas, eh bien, il y a peut-être une supposition derrière de quelque chose de plus lourd. Parce qu'il y a aussi des personnes qui encapsulent les traumas, c'est-à-dire qui les oublient. Ça passe dans l'inconscient parce que c'était tellement douloureux que une des fonctions protectrices du cerveau, c'est de masquer en fait ça, le passé dans l'inconscient. Mmh. Et on observe quelquefois en fait une réminiscence du souvenir des années après que ça se soit passé. La personne, pour se défendre, a occulté le souvenir, mais néanmoins, le trauma reste quand même bien à l'intérieur. Donc, il y a des sortes de bugs comportementaux qui apparaissent par moments et qui peuvent être révélateurs de quelque chose de plus profond,
oui.
En fait. Et puis, aussi, autre catégorie, c'est toutes les personnes qui sont dissociées, qui ne ressentent rien, qui se teignent du manque de résultats de cette technique. J'ai eu, par exemple, une fois une personne qui était tellement dissociée qu'elle ne ressent même plus la douleur. Elle s'est cassée un bras parce qu'elle est tombée. On l'a plâtré, mais comme le plâtre la gêne, au bout de quelques jours, elle casse le plâtre toute seule et elle dit ne rien ressentir, donc elle n'a plus besoin du plâtre. Et si on la réassocie et qu'elle revient dans son corps, à ce moment-là, elle ressent effectivement la douleur. Mmh. Ça peut aller jusqu'à ce point-là.
Ah oui. Oui. Alors justement, cette dissociation, on l'a effleurée tout à l'heure. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus en profondeur ? En quoi consiste la dissociation et comment la contourner ? Parce que justement, on va pas l'éliminer, c'est ce que tu as dit.
Ouais. Alors en fait, ce que je peux dire, c'est que j'ai rencontré, et j'en rencontre, hein, plusieurs de ces personnes qui, par le biais de mon site internet mentalslim.fr, donc qui suivent un programme d'amincissement, ne parviennent, malgré tous leurs efforts, et vraiment, elles s'investissent beaucoup, elles ne parviennent pas à se débarrasser de leur surpoids, parce qu'en fait, ils jouent inconsciemment un rôle de protection contre les agressions extérieures. Donc vraiment, ces personnes-là se dissocient, exactement comme les personnes en Haïti dont on parlait. Donc la dissociation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est en fait un moyen de protection et de défense. Donc les systèmes, les moyens de protection et de défense, c'est l'ensemble de toutes les opérations dont la finalité, l'objectif, c'est de réduire, de supprimer toutes les modifications qui pourraient nous mettre en danger, c'est-à-dire mettre en danger l'intégrité et la constance de l'individu. Donc c'est en fait, les mécanismes de défense ont été apportés par la psychanalyse et qui considèrent que c'est vraiment, ce ne sont pas des stratégies conscientes. C'est vraiment des processus psychiques qui visent à se défendre de stratégies qui visent à se défendre de pulsions hein, qu'on juge à l'intérieur de nous un peu comme inconciliables, voire même dangereuses. Donc voilà, c'est ça en gros le mécanisme de dissociation. Alors, on observe plusieurs niveaux aussi, hein. Donc il y a trois niveaux. Nous, on va parler principalement des deux premiers niveaux. Mmh. La dissociation qu'on appelle anxieuse, c'est un détachement de l'esprit par rapport aux états émotionnels. En fait, on perçoit, les personnes disent, oui, mais j'ai l'impression d'être un peu en dehors de moi, de pas vraiment ressentir. C'est des gens qui parlent de déréalisation, de mmh. voilà. J'ai l'impression que ça arrive à un autre.
Oui.
Alors, la dissociation primaire, c'est un processus de traitement de l'information un peu particulier pendant le trauma psychique. Donc l'expérience est tellement bouleversante pour l'humain que la conscience, elle ne peut pas l'intégrer normalement.
Oui.
Donc en fait, il y a une sorte de fragmentation de la conscience.
Mmh. Elle décide que non, c'est pas arrivé.
Elle décide qu'elle n'est pas là. Mmh. C'est les enfants qui partent dans un monde quand les coups pleuvent sur eux.
Oui.
Ensuite, on a une dissociation secondaire, c'est la personne qui se trouve déjà dans un état dissocié, eh bien, ça peut aller encore un peu plus loin. C'est une espèce de désintégration au niveau d'expérience personnelle. Alors, si on veut faire bien et psy, on dit une désintégration entre le moi observant et le moi expérimentant.
D'accord.
Donc c'est vraiment une sorte de coupure. C'est je m'observe en train de vivre quelque chose. La personne, elle prend de la distance par rapport à l'événement et en fait, elle le vit à travers la position d'un observateur.
Mm-hmm.
Là, on est vraiment dans de la dépersonnalisation carrément. Et puis le troisième niveau, en fait, hein, c'est très rare. On voit ça dans des films, mais vraiment, moi, j'ai jamais vu. En institution, ça peut exister. C'est après des traumas continuels. Les personnes sont capables de créer des états du moi indépendants. C'est ce qu'on appelle c'est des troubles dissociatifs de l'identité, c'est les personnalités multiples. Elles stockent des expériences traumatisantes dans des états différents. Donc voilà, ça fait l'objet de plein de films très bien d'ailleurs.
Oui.
On voit ce type de personnalité psychopathe, les gens qui se transforment. Voilà. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment le niveau ultime de la dissociation.
D'accord. Ce qui arrive très rarement dans nos cabinets, heureusement.
Oui, absolument.
Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément de notre relève. Là, il faut...
Voilà, donc je pense que ce qu'il faut...
Oui,
tout à fait. Et ce qu'il faut expliquer aux personnes qui sont dissociées, finalement, c'est l'utilité de cette dissociation.
Oui, parce qu'ils peuvent s'en vouloir aussi. Ils se disent, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à prendre sur moi?
Voilà, c'est ça. Où ils peuvent se dire, je suis pas normal, ou il y a un truc qui est bizarre, ou je m'en sortirai jamais, voilà. Ou partir sur des pensées négatives récurrentes qui vont bloquer finalement et le process et le fait que elles vont plus utiliser l'EFT en se disant ok, ça marche sur les autres parce qu'il y a tellement de témoignages que j'en doute plus, mais c'est pas pour moi.
Oui.
Voilà. Donc en fait, il y a une manière de travailler avec l'EFT avec ces personnes-là.
D'accord. Alors. Explique-nous ça.
Eh bien, la première chose à faire, c'est de reconnaître et d'accepter l'utilité de la dissociation. C'est d'expliquer à la personne que cet état-là lui permet d'éviter de souffrir et que c'est parce qu'elle est dissociée que finalement elle arrive à faire tout ce qu'elle fait. Parce que des personnes qui sont dissociées, bon, alors c'est pas très agréable, évidemment. C'est pas très désagréable non plus, mais c'est juste que les personnes n'y ressentent rien, quoi. C'est une coupure émotionnelle. Donc, je traverse ma vie, je traverse la vie, et moi, je me rappelle de personnes qui sont venues consulter pour me dire, Je sais pas trop ce que j'ai. Mon conjoint ou qui m'envoie parce que elle me dit que l'EFT ça pourrait me faire du bien, mais finalement je sais pas trop sur quoi travailler, et qui en fait commence à décrire des moments de vacances, des moments de famille, de partage. Normalement on devrait vraiment être follement heureux. Je me rappelle que ce monsieur-là m'avait dit, mais ouais, j'étais avec des amis, il y avait ma famille, il y avait les enfants, c'était un moment, c'était un très chouette moment, on était dans une propriété magnifique au bord de la mer, enfin bref, moult détails qui commençaient à me faire saliver. Mm-hmm. Et il me dit à un moment, je me suis demandé si c'était ça le bonheur.
D'accord.
Donc on imagine quand même que effectivement c'est comme manger un plat qui est pas salé, pas épicé, pas de poivre, rien du tout, quoi.
Oui.
Donc ça manque de goût, quoi.
Oui. Oui, parce que ces personnes ont dû se dissocier de leur douleur, mais en fait ça les a anesthésiés et du coup ils ne ressentent pas forcément de plaisir et de joie non plus.
Voilà, l'état dissociatif en fait se prolonge dans toutes les situations de la vie quotidienne.
Oui, ils passent un peu à côté de leur vie.
Voilà. Donc en fait, on va commencer avec les personnes qui sont dissociées à travailler là-dessus pour petit à petit les amener à commencer à ressentir les choses. Et à partir du moment où elles vont commencer à en fait baisser leur garde, voilà, là on va pouvoir aussi travailler sur des événements du passé. Alors si c'est trop fort ce qu'elles retrouvent à ce moment-là, eh bien, on va y aller tout en douceur. Donc, on va utiliser des techniques en EFT, comme la technique du trauma sans larmes, qui, bien souvent, n'en a que le nom. On va utiliser l'approche furtive. En fait, on va utiliser des techniques qui permettent de pas trop rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et donc, c'est assez... en fait, les techniques qu'on appelle douces en EFT sont des techniques qui introduisent de la dissociation. Donc, les personnes qui sont dissociées pour se protéger, on va chercher à faire l'inverse. Donc on va leur faire reparler du trauma avec lequel elles se sont coupées, mais tout en faisant attention de pas directement les replonger dedans.
Oui, bien sûr,
dans ce cas-là,
on reste dans le confort et la sécurité, voilà, de la personne.
Bon, et donc c'est vrai que ça c'est pas forcément à la portée de tous les pratiquants de EFT qui démarrent, qui sont bien intentionnés, parce que ça peut aller très vite, hein. On peut très très facilement avoir une personne dissociée qui ne ressent rien, et puis on commence à mettre le doigt là où ça fait mal, elle se réassocie, et là elle part en abréaction. Donc ça peut être très traumatisant pour la personne, mais aussi pour le pratiquant EFT. Donc voilà, sur ces cas-là, il vaut mieux s'adresser à des personnes qui ont un peu de bouteille.
Oui.
Il y en a beaucoup d'ailleurs. Mm-hmm. Mais voilà, attention. Et je pense notamment aux personnes qui se forment à l'EFT, qui sont très enthousiastes et d'une manière très légitime, mais qui peuvent voilà être confrontées à ça. Et là, franchement, je peux vous dire que ça fait super bizarre. Hein. J'ai eu des personnes en supervision qui m'ont dit non, c'est fini, moi je retouche plus jamais à l'EFT.
Oui.
Alors que bien utilisé, c'est vraiment une technique extrêmement efficace et extrêmement intéressante. Mmh.
Donc il faut apprendre à reconnaître les signes de la dissociation et être conscient de ce risque.
Oui.
Avec certaines personnes.
Aussi avec, tout à fait. Et puis aussi avec les personnes qui sont dissociées, eh bien, on va utiliser vraiment tout l'ensemble du pacte traumatique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'image, la pire ou le film, l'émotion ressentie, la sensation dans le corps et sa localisation, ainsi que la croyance négative. Pourquoi ? Parce que si on a ces cinq éléments, eh bien si la personne elle en lâche un, par exemple, elle peut vous dire « Ah ben non, là je ressens plus rien » ou « Non, j'ai plus d'image », on peut la reconnecter avec le ressenti corporel. Et donc, on va pouvoir continuer à travailler en EFT sur le ressenti corporel. Pareillement, on pourra aussi travailler au niveau de l'émotion. Par exemple, la personne nous parlait de tristesse, on la reconnecte avec sa tristesse, même si elle a oublié l'image, ou alors avec la croyance négative. Le fait d'avoir cinq composantes dans notre pacte traumatique, c'est cinq chances de pouvoir approfondir et continuer le travail. Voilà, donc c'est ça aussi qui est important.
Oui, c'est cinq portes possibles pour entrer dans cette pièce qui est restée fermée
pour
la dissociation.
Et puis donc, après, il y a la manière de travailler avec des ressources, où là on va pouvoir aller dans du positif, aller dans le futur. Donc, il existe un protocole, en fait, hein, qui a été mis au point par des psychologues en 2002, ce protocole est enseigné à la fois à l'IFPEC ou à la Thérapeutia, j'imagine aussi ailleurs, mais on l'applique par rapport à l'EFT. Donc, c'est pas quelque chose qui vient de l'EFT, c'est un protocole existant, utilisé en traumatologie, et dans lequel on utilise la technique de l'EFT. Donc, en fait, pour faire, je vous le résume, on le détaillera tout à l'heure si tu veux.
Ouais.
Et d'abord, on va penser à un problème actuel et on va identifier les ressources dont on aurait besoin pour que ce qu'on est en train de vivre ne soit plus un problème. C'est-à-dire, en fait, on passe d'un état interne à un état désiré, on projette la personne dans le futur en disant, ok, si ce que tu vis en ce moment, ben, ça n'existait plus, si ça allait mieux, comment tu serais? Et donc, on va l'amener à identifier les ressources nécessaires pour régler la situation présente. Ensuite, on va identifier le type de ressources dont la personne dispose, soit déjà en elle, parce qu'elle a vécu des expériences agréables, soit elle n'en a pas vécu, donc on peut faire appel à son imaginaire, penser à un personnage mythique, penser à un personnage réel, à un film, penser à un symbole, il y a plein de choses à laquelle on peut associer la personne. On peut ensuite, on va faire du développement de ressources, c'est-à-dire qu'on va installer la personne là-dedans pour lui faire ressentir vraiment cette ressource, et puis on va contrôler si ce qu'elle ressent là, dans ce qu'on l'accompagne à vivre, c'est vraiment ce dont elle a besoin par rapport à la situation qui pose problème. Ça, c'est une étape importante à faire, parce que sinon on va installer une ressource, et puis à la fin on va s'apercevoir que finalement c'était pas tout à fait la bonne ressource, voire même qu'elle est complètement inutile. Donc on aura fait le travail pour rien. Donc c'est une étape de contrôle importante. Mmh. Ensuite, on amène la personne à ressentir la ressource, donc là on lui fait fermer les yeux, et puis avec notre discours on va vraiment l'installer pleinement là-dedans, et puis on va commencer à faire un peu de stimulation des points d'acupuncture, donc la ronde classique de EFT, hein. On va démarrer au début des sourcils, on va taper au coin de l'œil, etc., tout en étant dans du positif, en pensant à du positif. On va faire du renforcement de cette ressource jusqu'à ce que la personne la ressente vraiment bien à l'intérieur. Généralement, la personne elle est bien à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis, on la projette dans le futur. C'est-à-dire, ok, en ressentant tout ce que tu ressens, maintenant, imagine que dans le futur, tu revives la même nature d'événements qui, tout à l'heure, te mettaient mal à l'aise. Et donc, on voit ce que ça donne. Et puis après, si la personne est en cabinet, il y aura un suivi des ressources par le thérapeute. Si elle le fait toute seule, eh bien, elle continuera, elle, à vérifier que ça tient bien, et elle continuera à amplifier. Mm-hmm. En fait, c'est une manière d'utiliser du positif en EFT, parce que je sais qu'on en parle beaucoup. Souvent, on fait un peu n'importe quoi avec du positif, c'est-à-dire qu'on installe du positif sans vraiment avoir une structure, et ça peut avoir des effets qui sont pas forcément très positifs. Là, on a un protocole, on a une manière de faire qui, au moins, nous permet de faire quelque chose d'utile avec du positif.
D'accord. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple avec une personne dissociée qui aurait besoin de faire ce genre d'installation de ressources? Comment ça pourrait se passer?
Ok, bon, on va passer à la partie la plus plaisante, qui est l'exercice en vraie grandeur. Alors, ce que je te propose, Maria, c'est que on prenne un exemple imaginaire. On pourrait faire un jeu de rôle. Imaginons que toi, tu sois une personne qui pratique le EFT, qui ne ressente rien. Et imaginons, je dis bien imaginons parce que ceux qui te connaissent vont sourire à cette idée, que tu sois en surpoids.
Ah oui. tu fais déjà appel à l'imaginaire, oui.
Voilà.
Ok, d'accord.
Donc, tu pratiques l'EFT depuis 3 mois, il ne se passe rien. Mm-hmm. Donc, tu viens me voir et puis tu me dis, bah, écoutez, votre technique, c'est bien joli, tout ça, mais franchement, j'ai l'impression que pour moi, rien ne se passe, je suis frustré, je suis d'ailleurs même en colère. Donc là, ce que je vais te proposer, c'est en fait discuter un petit peu avec toi, savoir si tu as vécu des choses difficiles dans le passé. Très souvent, les gens veulent pas trop en parler, donc on peut respecter ça. Hein. On n'est pas, surtout si on fait des démonstrations en public, on peut simplement demander à la personne de ne rien dire, mais de repenser à tout ça. Et puis, voilà, on va faire des phrases. Ce que je vais proposer, c'est une phrase assez générique. Hein. Il n'y a pas de choses très spécifiques. Comme ça, les gens qui nous écoutent peuvent travailler aussi avec nous.
Oui.
Alors, juste aussi une petite indication. La phrase que je vais proposer, elle est assez longue parce que c'est une phrase de recadrage. En fait, c'est une technique aussi un peu plus avancée en EFT qui fait que on va à la fois se centrer sur le problème, à la fois s'accepter comme on est, mais en même temps reconnaître que le fait qu'on ne sente rien quand on fait ça, c'est normal. Et puis on va faire un recadrage, c'est-à-dire qu'on va introduire dans la phrase des éléments objectifs et vrais qui contribue à expliquer ce qui se passe. Mmh. Donc,
bon,
plutôt que d'être dans la théorie, on va le faire. Donc, ce que je te propose, c'est de stimuler le point karaté, donc le tranchant,
alors,
la partie charnue du tranchant de la main.
Pour les personnes qui nous écoutent, sur quoi elles peuvent se concentrer ? Sur un événement traumatique de leur passé ? Sur un blocage ? Comment ?
Alors, ça peut être en rapport effectivement avec un élément traumatique du passé, avec le fait de rien sentir. Hein, ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont effectivement dans la dissociation. Quelqu'un qui serait déjà à fleur de peau, faut pas qu'il fasse ce genre de choses. Ça sert à rien, en fait.
D'accord.
Hein, toutes les personnes, et il y en a beaucoup, qui ont vécu des choses difficiles et qui, lorsqu'elles travaillent dessus avec l'EFT, ne ressentent rien. On commence à stimuler le point karaté, et puis on peut dire... Même si je ne ressens rien quand je fais de l'EFT.
Même si je ne ressens rien quand je fais de l'EFT.
Je m'accepte comme je suis. Je m'ouvre à la possibilité de changer.
Je m'accepte comme je suis et je m'ouvre à la possibilité de changer.
Et c'est normal que je ressente rien.
C'est normal que je ne ressente rien.
Car j'ai besoin de me protéger.
Car j'ai besoin de me protéger.
La réalité, c'est que j'ai vécu des choses difficiles.
La réalité, c'est que j'ai vécu des choses difficiles.
Et c'est vraiment dur pour moi de me reconnecter à tout ça.
Et c'est vraiment dur pour moi de me reconnecter à tout ça.
Et d'un autre point de vue.
Et d'un autre point de vue.
J'ai le droit de prendre le temps qu'il faut pour me libérer de ces émotions.
J'ai le droit de prendre le temps qu'il me faut pour me libérer de ces émotions.
Ok. Ensuite, on va commencer par une première ronde. Mmh. On démarre au début du sourcil. Et on dit, je ne ressens rien quand je fais de l'EFT.
Je ne ressens rien quand je fais de l'EFT.
Au coin de l'œil, j'ai besoin de me protéger.
J'ai besoin de me protéger.
Sous l'œil, je ressens rien du tout.
Je ne ressens rien du tout.
Sous nez, je ressens plus les émotions.
Je ressens plus les émotions.
Sous la bouche, je ressens plus les émotions.
Je ressens plus les émotions.
Sous les clavicules, je ressens plus les émotions.
Je ressens plus les émotions.
Sous le bras, je suis coupé de tout ça.
Je suis coupé de tout ça.
Sous la poitrine, sous les pectoraux, je ressens plus rien.
Je ressens plus rien.
On peut rajouter les points des doigts, donc à la base de l'ongle du pouce, je ressens vraiment plus rien.
Je ressens vraiment plus rien.
À la base de l'ongle de l'index, je ressens plus rien.
Je ressens plus rien.
Je ne suis pas dans mon corps, à la base de l'ongle de l'imageur.
Je ne suis pas dans mon corps.
Ce que je vous conseille, c'est de taper plutôt doucement à ce moment-là. À la base de l'ongle du petit doigt, je ne suis plus dans mon corps.
Je ne suis plus dans mon corps.
Et sur le point de gamme, je ne ressens rien quand je fais de l'EFT.
Je ne ressens rien quand je fais de l'EFT.
Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que quand on fait du tapping, c'est bien de le faire avec des gens dissociés, c'est bien de le faire doucement. Pourquoi ? Parce que les personnes sont en train de faire un geste vers eux-mêmes, puisqu'ils touchent leur corps, qu'ils touchent les points d'acupuncture, et que il y a une sorte de retour à soi, et que très souvent, c'est quelque chose qui réassocie la personne, puisqu'il y a un impact au niveau corporel. Mais c'est bien de le faire doucement. Voilà. Donc là, on vient de faire notre première ronde, on va faire une deuxième ronde, on recommence au début du sourcil, et on dit, c'est normal que je ressente
rien. C'est normal que je ne ressente rien.
Au coin de l'œil, j'ai vraiment besoin de me protéger.
J'ai vraiment besoin de me protéger.
Sous l'œil, c'est normal que je ressente rien.
C'est normal que je ne ressente rien.
Sous le nez, j'ai appris ça depuis longtemps.
J'ai appris ça depuis longtemps.
Sous la bouche, c'est ce qui m'a permis de grandir.
C'est ce qui m'a permis de grandir.
Sous les clavicules, c'est bien normal que je ressente rien.
C'est tout à fait normal que je ne ressente rien.
Sous le bras, c'est ma protection à moi.
C'est ma protection à moi.
Sous les seins, ça me protège de rien ressentir.
Ça me protège de ne rien ressentir.
Base de l'ongle du pouce. J'ai vraiment eu besoin de me protéger.
J'ai vraiment eu besoin de me protéger.
C'est vraiment une bonne protection pour moi.
C'est vraiment une bonne protection pour moi.
C'est normal que je fonctionne comme ça.
C'est normal que je fonctionne comme ça.
J'en ai besoin. Sur le petit doigt.
J'en ai vraiment besoin.
Et sur le point de gamme, j'en ai vraiment besoin.
J'en ai vraiment besoin.
Donc là, on vient de faire une deuxième ronde pour reconnaître le fait que c'est normal d'être dans cet état-là. Mm-hmm. En fait, on accepte cet état. On repart au début du sourcil.
D'accord.
On va faire exactement la même ronde. À chaque fois que je change de phrase, on change de point. Ça m'évitera de redire, de citer les points. La réalité,
c'est que j'ai vécu des choses difficiles.
C'est vraiment dur pour moi de me reconnecter à tout ça.
C'est vraiment dur pour moi de me reconnecter à tout ça.
C'était il y a longtemps.
C'était il y a très longtemps.
C'est vraiment dur pour moi.
C'est vraiment dur pour moi.
J'ai pas envie d'y aller.
J'ai pas envie d'y aller.
J'ai pas envie de repenser à tout ça.
J'ai pas envie de repenser à tout ça.
J'ai pas envie de repenser à toutes ces choses difficiles.
J'ai pas envie de repenser à ces choses difficiles.
J'ai vraiment souffert quand j'étais petit, petite.
J'ai vraiment souffert en étant enfant.
J'ai vraiment eu mal.
J'ai vraiment eu mal.
J'ai pas envie de repenser à tout ça.
J'ai pas envie de repenser à tout ça.
J'ai vraiment pas envie d'y repenser.
J'ai vraiment pas envie d'y repenser.
C'était tellement dur.
C'était tellement dur.
C'était tellement difficile pour moi.
C'était tellement difficile pour moi.
Et on recommence au début du sourcil. J'ai le droit de prendre le temps qu'il faut.
J'ai le droit de prendre le temps qu'il faut.
J'ai le droit d'apprendre à baisser ma garde.
J'ai le droit d'apprendre à baisser ma garde.
J'ai le droit de me libérer de ces émotions négatives.
J'ai le droit de me libérer de ces émotions négatives.
J'ai le droit de me libérer de tout ça.
J'ai le droit de me libérer de tout ça.
La vérité, c'est que ça n'appartient pas à tout ça.
La vérité, c'est que ça ne m'appartient pas à tout ça.
J'ai le droit de lâcher tout ça.
J'ai le droit de lâcher tout ça.
J'ai le droit de prendre mon temps pour lâcher tout ça.
J'ai le droit de prendre mon temps pour lâcher tout ça.
J'ai le droit de me libérer.
J'ai le droit de me libérer.
J'ai le droit de prendre mon temps.
J'ai le droit de prendre mon temps.
J'ai le droit de me libérer de ces émotions.
J'ai le droit de me libérer de ces émotions.
J'ai le droit de lâcher tout ça.
J'ai le droit de lâcher tout ça.
J'ai la possibilité de lâcher tout ça.
J'ai la possibilité de lâcher tout ça.
Je m'autorise à lâcher tout ça.
Je m'autorise à lâcher tout ça.
Voilà, donc ça fait en fait une façon un peu plus longue, mm-hmm, et plus peut-être complexe de travailler l'EFT, mais ça permet très très souvent d'avoir des personnes qui se réassocient. Alors je pense que c'est plus difficile de le faire tout seul dans son coin.
Oui.
Parce qu'on va, sentir monter l'émotion, mm, par moment, et donc là, on a, en fonction de l'âge de la personne, des années d'entraînement de « je bloque tout ».
Oui, donc il va y avoir des résistances et ça peut faire des...
Voilà. Quand on est en cabinet, ce qu'on observe, c'est que les personnes, on arrive à les réassocier, l'émotion monte, les larmes sortent, on continue le tapping, comme le fait de stimuler les points d'acupuncture calme le système nerveux autonome. En fait, on diminue le niveau de stress et au bout d'un moment, la personne récupère sa capacité à nouveau de tout rebloquer. Quand on le voit, on peut le ratifier, c'est-à-dire on peut dire à la personne, vous voyez, là vous venez de reprendre à nouveau le contrôle et c'est très bien comme ça. Mmh. Il faut, ce qui est important en fait, hein, en thérapie, ça je m'adresse plus aux thérapeutes, c'est vraiment de créer ce lien entre le thérapeute et son patient, son client, cette alliance thérapeutique, et de pas essayer de vouloir absolument brûler les étapes. Au contraire, plus on va être à même de rassurer la personne, de dire, vous voyez, là vous venez de faire ça, et c'est très bien.
Oui, respecter le rythme de la personne. Ouais.
Voilà. On va vraiment créer la confiance. Mmh. Et à partir du moment, et on va créer la confiance à la fois au niveau conscient et au niveau inconscient. Et à partir du moment où la personne, elle aura intégré cette confiance, eh bien, ok, là c'est, on aura vraiment réussi à créer cette alliance thérapeutique, et là la personne va se lâcher. Mmh.
D'accord. Donc là, c'est le moment d'installer ces fameuses ressources.
Oui. Alors, je vais vous l'expliquer le protocole, parce que je vois le temps qui passe. Ça nous fait déjà, on est bientôt à une heure. Oui. Donc, le protocole, en fait, comment ça se passe? Bah, d'abord, on va demander à la personne de penser à une situation qui est difficile pour elle, actuellement, dans sa vie. On peut, voilà, ça pourrait être, bah, j'arrive pas à, je me sens par exemple pas en sécurité, ce qui pourrait être le cas pour une personne en surpoids comme toi, Maria.
Ouais.
et donc, tu pourrais avoir besoin d'être, d'avoir une sorte d'armure, de couche protectrice, en fait, hein.
Bien sûr.
Alors, si on pense à cette situation d'être en insécurité, on demande donc à la personne de quoi est-ce qu'elle aurait besoin dans cette situation, de quelle qualité, de quelles ressources, de quelle force elle nécessite. Donc, ben voilà, la personne peut dire, alors là je vais le dire parce que c'est souvent ce que j'entends, j'aimerais me sentir plus forte. Plus forte, ça a une double connotation, mm-hmm. à la fois forte, oui. Physiquement, mentalement, mais aussi forte, c'est gros.
Oui.
Donc, et c'est intéressant de le souligner, de le pointer du doigt, de l'expliquer à la personne. Parce que souvent, la personne est en inversion psychologique, elle dit consciemment qu'elle veut maigrir, mais inconsciemment...
Elle a envie de rester forte.
Voilà, voire même de se sentir plus mm-hmm. forte. Donc, voilà. Donc, on va, en fait, identifier... une ressource, donc on va lui dire, ok, est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un moment où vous êtes senti forte, en sécurité, en fonction des ressources qu'elle a exprimées. Donc, rappelez-vous de ça. Alors, soit la personne, elle a un souvenir comme ça, soit elle en a pas, et donc dans ce cas-là, on va lui dire, ok, bah, est-ce que vous pouvez penser à une personne dans votre vie actuelle ou dans le passé qui a ces qualités ou qui représente ces qualités? On peut lui demander aussi de penser à d'autres images, des métaphores, à des symboles qui traduisent cette notion de force, de sécurité.
Oui.
Donc, si par exemple la personne a plusieurs ressources dont elle a besoin, on va lui demander d'en choisir une. Donc, on va prendre par exemple, la sécurité. Lorsque vous pensez à la sécurité ou à l'expérience, mettons que tu me dises en fait que oui, la sécurité pour toi, c'est quand tu avais 15 ans, quand tu étais chez ta grand-mère, parce qu'il y avait plein d'amour et que tu revois très bien ta chambre. Mmh. Donc, lorsque tu penses à la chambre de tes 15 ans chez ta grand-mère, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu ressens, et qu'est-ce que ça fait là dans ton corps?
D'accord, donc on va passer un maximum de sensations.
Ouais, donc je sais pas, je vais te laisser répondre, parce que si je fais les questions et les réponses... Donc, quand tu penses à la chambre de tes 15 ans, par exemple, qu'est-ce que tu ressens?
Je ressens du calme, une sérénité.
D'accord.
Et je peux très facilement rappeler les odeurs, les sons.
Ok. Donc, lorsque tu te concentres sur cette image de cette chambre, que tu ressens le calme, la sérénité, et que tu ressens avec ton nez toutes ces bonnes odeurs, comment est-ce que tu te sens ?
Apaisé.
Apaisé, ok. Et donc, lorsque tu ressens cet apaisement et que tu repenses à la situation qui pose problème. Par exemple, quand tu es en manque de sécurité, en insécurité, quand tu es en public, à combien est-ce que tu estimes comme soutenante cette ressource que tu as de 0 à 10?
Si je pouvais me sentir comme ça, j'aurais plus peur.
Ok. Donc là, en fait, on contrôle que la ressource à laquelle tu penses, elle est appropriée, adaptée à changer la situation initiale. Mmh. Donc maintenant, c'est ce qu'on fait souvent en hypnose, hein, tu vas ressentir la ressource. Donc permets-toi de t'arrêter sur cette image, cette chambre, observe tout ce qu'il y a autour de toi, peut-être qu'il y a un édredon, observe la taille du lit, son épaisseur, peut-être regarde la fenêtre, peut-être qu'il y a des rideaux, s'il y en a, tu observes la couleur, ou observe en fait tous les détails qui sont importants, et puis ressens bien ces odeurs aussi. Mmh. Avec toutes les sensations que tu ressens à l'intérieur de toi et aussi tous les sentiments que tu peux éprouver, les émotions. Et tu prolonges et tu gardes ça.
Oui.
Simplement, quand tu es là-dedans, est-ce que tout est ok pour toi? Est-ce que tu continues à te sentir bien?
Oui, c'est la sécurité, c'est la sérénité.
Ok, donc maintenant tu vas simplement faire un peu de tapping, c'est-à-dire tu vas stimuler le point au début des sourcils, et puis tu continues, pendant que tu fais une dizaine de tapotements par point, tu passes au point au coin de l'œil, et tu continues à t'imaginer dans cette chambre, à ressentir tout ce que tu ressens, à diriger ton attention sur tout ce qui te permet de te sentir en sécurité. Observe, fais un 360 degrés, dans la chambre, tu continues à changer de point. Moi, j'en suis sous les clavicules maintenant. Mm-hmm. Sous le bras. Qu'est-ce que tu ressens?
Je redécouvre des choses que j'avais oubliées.
D'accord.
Parce que ça fait longtemps que je n'étais pas retournée dans cet endroit-là, dans ma tête.
Ok, mais tu continues encore. Tout ce qui est bon pour toi, tout ce que tu peux imaginer, mm-hmm. observer, ressentir. Dirige ton attention aussi sur les odeurs. Les odeurs, c'est vraiment quelque chose de très prégnant. Ça passe directement, c'est directement connecté avec le cerveau, le bon olfactif.
Oui.
C'est les ancrages de la fameuse Madeleine de Proust.
Oui.
Voilà.
Ben justement, là, c'est l'heure du goûter, donc c'est pas des madeleines qu'elle m'amène, mais voilà, il y a les petits gâteaux que j'aimais à l'époque, qu'elle fabriquait.
Bon, ok. Voilà, ben, imagine aussi ta grand-mère, son sourire, son visage. Tout le lien qui est entre vous, toutes ces choses positives. Mmh. Ok, là tu peux arrêter le tapping et puis simplement tu peux maintenant, avec tout ce que tu ressens là à l'intérieur, toute cette sécurité, ce calme, cette sérénité, tu peux t'imaginer dans le futur, en train de vivre une situation qui habituellement provoque une émotion négative. Imagine-toi disposer de tout ce calme, toute cette sérénité, cette sécurité dans cette situation.
Ouais, ça fait du bien.
D'accord. Qu'est-ce qui se passe?
Mais du coup, je suis complètement à même de faire face à cette situation. Je garde mes moyens, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de stress.
Alors, tant que c'est bien, tu continues à tapoter au début des sourcils. Puis tu continues à imaginer, voilà, tu es dans cette situation du futur, tu as tout ce calme, cette sérénité, cette sécurité, et tant que ça a un effet positif, tu continues à faire le tapping, tu peux même faire complètement la ronde tout entière. Mmh. Ok, maintenant, donc quand tu es en train de te concentrer sur cette situation du futur, tu continues à ressentir les mêmes choses?
Oui, j'ai l'impression que c'est bon, il n'y a plus de difficultés dans cette situation-là.
Ok, donc maintenant, on reprend la situation initiale, celle qui a été évoquée au départ, donc la situation anxiogène qui s'est passée il y a X temps, et donc tu te reconcentres sur cette situation. Et en fait, la question, c'est de savoir à combien de 0 à 10 tu estimes que cette ressource est soutenante et qu'elle te permet de faire face.
Alors là, c'est un peu faussé parce que j'avais pas forcément évalué de situation au départ. Mais en tout cas, rien qu'en ayant la ressource, j'ai pensé à d'autres situations où je pourrais en avoir besoin. Et effectivement, c'est oui, c'est 10 sur 10. Hein.
Ok. Donc en fait, dans un travail en cabinet ou par Skype, hein, on va accompagner la personne à faire la même chose avec chacune des ressources. Et l'idée, c'est vraiment de faire grandir ça petit à petit. Et donc, la dernière étape en fait en cabinet, c'est le suivi des ressources. En fait, pour les séances suivantes, le thérapeute, il réévalue les ressources qui ont été installées de manière à bien vérifier l'effet de la pérennité de cette ressource au niveau de sa stabilité. Et donc, lorsque le client ou le patient est prêt pour la deuxième phase de confrontation au trauma, eh bien, on va commencer les séances en demandant au client de sélectionner les ressources qui ont été installées d'abord et puis dont il a besoin pour faire face au trauma. En fait, c'est un peu comme si on installait un lieu de sécurité ou en tout cas, on a déjà des ressources sous la main prêtes à être utilisées quand on va commencer à aborder les traumas ou en tout cas tous les déclencheurs du présent. Donc on traitera le présent, on va voir que ça tient. Quand ça tient, ensuite on va aller chercher les traumas du passé. Voilà. Donc voilà, pour conclure, parce que je vois que on arrive au terme, eh bien ce qu'on peut dire, c'est que toutes les personnes qui ont des difficultés avec l'EFT, c'est-à-dire soit qu'elles ne ressentent rien, soit que ça leur semble un peu risqué de revenir sur des choses de leur passé, des événements de leur passé, eh bien, elles peuvent utiliser vraiment ces façons de faire, à savoir travailler sur la dissociation et ensuite installer des ressources. Ça leur donnera vraiment un cadre très sécurisant.
Oui.
Voilà. Et efficace.
D'accord. Ben, merci beaucoup Jean-Michel, c'est vraiment des super pistes. Merci d'avoir partagé tout ça.
Merci à toi Marie.
Mais avec plaisir. Et merci aussi à tous nos auditeurs fidèles d'avoir suivi cette conférence.
Et pour ta prise de poids, t'en fais pas, je suis sûr que ça va passer très vite.
Ben, tu sais quoi, c'est déjà passé. C'est magique, hein. Ouais, mais voilà, magique. Je vous préviens quand même, ça sera pas toujours comme ça. Ça sera toujours instantané. De cette façon. On va ouvrir le chat et vous pourrez poser vos questions à Jean-Michel qui va y répondre dans quelques minutes. À tout de suite pour les questions-réponses.